Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy.
Bonsoir.
Avec le journaliste Stéphane Blakowski. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Le directeur de la rédaction de l'Obs, dont on parle beaucoup depuis hier soir. Pas toujours en bon terme. Enfin, pas de vous.
On parle en très bon terme, Marco. Bonsoir.
Mathieu Croissant-Neau. Et évidemment, Olivier Mazurin est avec nous comme tous les jeudis. Pour notre plus grand plaisir, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
La fermeté jusqu'au bout, Édouard Philippe en opération déminage, donc sur la loi immigration et asile. Il recevait des associations cet après-midi qui dénoncent un texte déséquilibré, mais l'exécutif ne lâche rien. Après cette une de l'Obs montrant le président entouré de barbelés et le texte de Le Clésio qui dénonce un déni d'humanité insupportable, Emmanuel Macron réagit notamment. Il faut se garder des faux bons sentiments. Alors, cette loi, attention danger ou bon équilibre. Et puis, on va parler de cette une de l'Obs. On l'a fait hier. Je vous repasserai le son dans un instant de Jean-Luc Manot. Je sais pas si vous l'avez entendu, Mathieu Croissant-Neau.
Vous allez me rafraîchir la mémoire.
Allez, sur les réseaux sociaux d'abord.
C'est partagé. Bonsoir, mais bonsoir. Beaucoup d'inquiétudes. Aurélien craint carrément que ce projet ne marque la fin du droit d'asile qui fait l'honneur de notre pays. Tant mieux, rétorque Jules. Ne pensez-vous pas que les dispositifs d'accueil actuels, notamment à Paris, sont arrivés à saturation ? En effet, admet Rive, c'est pour ça qu'il fallait les améliorer. Ne plus obliger les personnes à attendre sur le trottoir, à manger par terre, à se battre pour tenter d'accéder aux droits. Médecins sans frontières tweet d'ailleurs, il n'est pas question pour nous de participer à ce jeu de dupes qui masque mal la volonté d'amplifier des logiques de répression, d'éloignement et de dissuasion des populations migrantes à tout prix. À droite, au contraire, on réclame encore plus de fermeté. Thierry Mariani assure que pour être vraiment efficace, cette future loi doit aussi limiter les avantages sociaux pour les clandestins comme l'AME et pour les nouveaux arrivants, conditionner certaines prestations sociales, présence minimum de 3 ans en France. À ce jour, rien de prévu, lance-t-il. On ne va pas assez loin contre les envahisseurs, résume Iso. Mais enfin, ils n'ont pas le choix. Vous voulez dissuader de venir chez nous des gens qui, globalement, ne veulent pas venir chez nous, s'agace Babil. Arrêtez de râler, rétorque Nico. Cette crise, c'est le fruit de 30 ans de laxisme. Comprenez que Macron est le dernier rempart avant la droite dure, explique-t-il. Faire les gros yeux de l'extrême droite pour dissuader les migrants de venir. Quelle idée ridicule, vu ce qu'ils fuient, sous Pierre Vernon, qui soupçonne que les raisons de cette loi putride soient autres. Pour réussir, Macron doit appliquer des actes visibles pour les Français. Il sait que la communication ne suffit plus, conclut Patricia.
Mathieu, vu votre une, pour vous, la France, France fermée ?
La France prend le risque, en tout cas, d'oublier une partie de sa tradition, une partie de ses valeurs. C'était le pays des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme, mais c'est en train, peut-être, de devenir la République des barbelés. C'est ce qu'on a voulu signifier en cette une, de façon un peu provocante, je le reconnais.
Qui a donc amené cette réaction de Jean-Luc Manot, que vous pouvez déjà écouter.
Je trouve la une de l'Obs intolérable.
Ouais,
intolérable.
Franchement, c'est pas vrai.
J'ai envie de prendre ces gens et de les envoyer en stage à Yad Vashem, avec des gens qui ont connu la Shoah, pour que leur apprendre un peu ce que c'était, parce que manifestement, ils ont rater quelques cours d'histoire et un peu de sensibilité sur la question.
Alors je pense que Jean-Luc Manot vient de franchir ce qu'on appelle le point Godwin, c'est-à-dire la réductio ad litteram du moindre débat. Il n'y est absolument aucune volonté de faire allusion au nazisme dans notre histoire.
C'est ce dont
histoire.
Ils accusent.
Bien fait. Sûr, absolument.
Il y a des barbelés, mais personne, il n'a pas mis de petite moustache hitlérienne à Macron, donc on peut pas dire que...
Personne ne peut imaginer qu'on pense qu'on fasse ce procès-là à Emmanuel Macron, bien entendu. Les gens qui s'émeuvent des barbelés se sont moins émus, dans mon souvenir, à l'époque où Orban Viktor, le président de la Hongrie, enfin le premier ministre de la Hongrie, en dressait autour de son pays pour bloquer la route des Balkans et la route des migrants. Donc, il faut raison garder. Il n'y a pas du tout de volonté de notre part de faire ça. En revanche, oui, elle est choc, cette couverture. Pourquoi ? Parce que la situation l'exige. La situation, elle est choc. On a, on va pas vous faire un dessin, on en a parlé mille fois, des millions de migrants qui arrivent en Europe. Et la France n'est pas à la hauteur de ses exigences. Elle n'est pas à la hauteur de sa tradition, on va en parler. Moi, je trouve qu'elle est en train de se refermer. On est aujourd'hui, des personnalités prennent la parole dans l'Obs, que ce soit Le Clésio, Gallois, tout ça. Ils le disent. On est en train d'interdire des maraudes, ou en tout cas de réprimer des maraudes d'associations qui aident à nourrir les migrants. On est en train de balancer dans des bennes à ordures leur sac de couchage ou leur tente. On poursuit pénalement des gens au nom d'un délit de solidarité qui accueillent des migrants. Je ne parle pas des trafiquants ou des passeurs, mais des gens qui ouvrent leurs portes. Donc je pense que la France est en train de filer un mauvais coton.
Olivier, vous faites le même constat. Une France qui file un mauvais coton et qui se rabougrit.
Qui se rabougrit, oui, certainement. Mais pourquoi elle se rabougrit ? C'est quand même ça la question aussi.
Ouais. Je boue.
Oui, c'est comme ça la question. Alors, bon, moi, ce numéro de l'Obs me dérange, mais dans le bon sens. Il me dérange pourquoi ? Parce que finalement, on voit bien que cette question de l'immigration, elle est très souvent traitée de manière globale et de manière presque virtuelle. C'est-à-dire, bon, voilà, après tout, l'immigration en France, il est vrai que nous sommes un pays d'immigration, mais les immigrés ont rarement été très bien accueillis en France.
Enfin, comment peut-on dire une chose pareille ?
Ah, elle explose, enfin elle explose. Comment a-t-elle pu tenir si longtemps ?
C'était vrai des Polonais, c'était vrai des Italiens, et ceux qui arrivent aujourd'hui ont une différence supplémentaire encore par rapport à cette immigration précédente, c'est qu'ils sont d'une culture différente.
Même la couleur de peau, des fois.
Et que, oui, moi je parle pas.
Il y a des millions d'entre eux qui sont devenus français. De comment pouvez-vous dire qu'on ne les accueille pas
dans un pays, non, mal, il n'a pas dit pas.
Dans un
il
pays a qui a tort ou a raison, voit s'additionner d'abord des problèmes économiques ou sociaux. Il paraît que ça va mieux, mais enfin, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait réglé, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Et également, qui vit dans la crainte, non pas de voir disparaître sa culture, mais d'une mutation culturelle qu'il n'a pas envie de vivre, amène à traiter cette question de façon globale. En même temps, quand on lit effectivement le numéro de l'Obs aujourd'hui, les témoignages...
C'est pas des excités qu'on a dans l'Obs, hein, que ce soit le président de la Conférence d'évêques de France, voilà, Louis Gallois...
Non, mais c'est les intellectuels, c'est les grands auditeurs.
On a la dimension humaine.
C'est des nantis, vous
dites ? Non, c'est des gens qui sont des intellectuels, donc ils sont ravis de pouvoir faire valoir les Français.
Non, c'est des gens qui sont sur le terrain.
Quand on lit la situation de cet Afghan qui a travaillé avec les forces françaises militaires, et dont on chipote l'interprète la possibilité afghan de l'accueillir en France, on se dit que quelque chose ne va pas.
Ouais, mais enfin, vous prenez le cas qui...
Il faut faire attention de ne pas faire comme Angela Merkel, qui, en ne tenant pas compte de son opinion publique, est arrivé finalement à faire en sorte que l'extrême droite.
Non, mais moi je trouve que on félicite Mathieu et Lopes pour le titre. Hein, on était tous d'accord, bravo, super, on parle de vous. Je trouve que c'est juste parfois sont les unes de Valeurs Actuelles ou du Point, c'est-à-dire que ça frappe un grand coup, on en parle, mais finalement, j'ai pas lu de l'intérieur, mais c'est peut-être plus modéré.
Il faut peut-être lire.
Non, mais simplement.
La position, si vous voulez.
Là, on a l'impression qu'effectivement, on pense aux fameux migrants qui se noient dans la Méditerranée et que finalement, c'est à eux qu'on pense parce que la France serait pas respectueuse des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme. On prend les statistiques, on se rend compte que les premiers demandeurs d'asile ne sont pas des Syriens, ne sont pas des Afghans, sont des Albanais. Les Albanais, avec 7000 demandes, sont en tête. Donc les Albanais, c'est un pays où les gens, ce qui n'est pas sur la liste des pays où on n'a pas le droit de vivre, c'est eux qui sont les premiers représentés. Ça prouve bien que finalement, les gens qui font partie des migrants que le gouvernement voudrait pouvoir raccompagner puisqu'ils n'ont pas de droit d'être en France, ce n'est pas du tout des gens qui souffrent en priorité. C'est des Albanais qui, on comprend que les Albanais cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Mais de mettre en avant Stéphane, le bébé qui est mort, non, ça recouvre une autre réalité.
7000 Albanais, combien il y a eu de migrants dans la crise irako-syrienne qui sont venus en Europe ? 2,5 millions de personnes. Donc vous pouvez me dire, il y a 7000 fraudeurs albanais, si c'est ce que vous considérez.
Non, mais vous pouvez faire comme en Allemagne, vous pouvez accueillir, on peut dire, oui, l'Allemagne a bien fait. Donc ils ont accueilli 1 million de personnes en Allemagne. Vous savez combien il y a de députés néo-nazis au Parlement ? Il y a 94 députés néo-nazis en Allemagne, et c'est lié uniquement au fait que Merkel a ouvert les bras à l'immigration.
Juste une crise.
Vous prenez quoi comme exemple ?
Par exemple,
je vais finir juste ma phrase. Vous prenez quoi ? L'exemple de la Suède, l'exemple du Danemark, des pays scandinaves qui sont très accueillants. On dit toujours, vous savez combien les Suédois ont accueilli de migrants par rapport à la France si on ramène ça à la population ? Bah oui, mais il y a un parti qui s'appelle les démocrates suédois qui fait 20% et qui pèse maintenant sur l'opinion.
Au Danemark,
on dit oui, le Danemark, c'est le pays le plus heureux du monde. Le premier ministre danois vient de dire que les Syriens n'ont pas vocation à rester au Danemark. Bon, voilà, on n'est pas des monstres, les Français, non pas du tout.
Est-ce que parce que l'opinion publique est chauffée à blanc par des gens qui désignent les migrants comme des voyous potentiels, des fraudeurs, des voleurs de boulot, des violeurs de femmes, est-ce qu'au nom de ça, on doit renoncer à nos principes ?
Non.
Mais c'est ça, globalement.
Bon,
c'est ça,
alors,
c'est ça, vous savez.
Alors, excusez-moi, voilà, il est 27, d'accord, donc...
Vous n'avez pas encore parlé. Attention, c'est le premier jour. On est le 11 janvier 2018.
On ouvre le chronomètre.
Il est 28 presque déjà.
Je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Stéphane, ça ne vous étonnera pas. Mais Mathieu, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est qu'il y a un petit problème de démocratie. Au nom de quel bien supérieur et déterminé par qui, avez-vous le droit, vous, de dire que la France doit accueillir...
D'exprimer mon opinion, j'ai tous les droits.
Je n'ai pas terminé ma phrase, comme vous l'avez remarqué, il n'y a peut-être pas eu de point encore. Donc, que la France doit accueillir, si vous voulez, des millions de gens, alors que de sondage en sondage, si vous voulez, tout montre que au-delà de la droite et de la gauche, et au-delà des méchants réac, etc. Il y a un certain nombre de gens en France, probablement 60 à 70% dans les enquêtes, qui disent on ne veut plus accueillir autant d'immigrés. Que ça vous plaise ou pas, en démocratie, vous n'avez pas le droit d'imposer, parce que vous avez une belle âme et que vous habitez dans un beau quartier, de faire cela. Parce que, excusez-moi, vous venez de parler de la Suède, c'est très intéressant la Suède. C'est très intéressant d'avoir des bons sentiments. Pourquoi la France ne peut-elle pas accueillir beaucoup plus? Parce que la France intègre. Et quand elle intègre pas à moitié, puisqu'elle finit toujours au bout de éventuellement une... Non, mais quand même, j'essaye,
oui, mais
donc, j'essaye d'expliquer. Donc, si vous voulez, cette idée que la France ne serait pas généreuse est un dégueulasse. La France n'est pas un... Soit la France est un droit de l'homme pour tout le monde, et on a à ce moment-là le droit de refuser personne, soit... On respecte le droit d'asile, comme l'a dit Stéphane, pour les gens qui sont menacés. D'accord ? Les Ivoiriens, vous avez parlé des Kosovars, moi, des Albanais. Moi, je voudrais parler des Ivoiriens. Je comprends que des Ivoiriens aient envie de venir chercher du boulot en France. D'accord ? Soit on est une nation souveraine et on a le droit, malgré tout, de décider qui on accueille en fonction de notre droit. Et notre droit ne dit pas qu'on doit accueillir tout le monde. Il dit qu'on doit accueillir les gens qui relèvent du droit d'asile.
Et on y revient dans un instant. Alors, Olivier, Mathieu, vous allez pouvoir répondre dans un instant, hein, tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fauché.
Et avec Stéphane Blokowski, Elisabeth Lévy, Olivier Mazerolle et Mathieu Croissando de l'Obs. Mathieu, vous voulez répondre à
oui,
Elisabeth?
Oui, juste parce qu'Elisabeth parle de démocratie en s'appuyant sur un sondage dont je lui laisse la paternité. Et qui expliquerait qu'un certain nombre de pourcentages de Français refusent les migrants. Moi, je vais vous parler de démocratie en s'appuyant sur un programme ou en tout cas des déclarations d'un candidat qui s'appelait Emmanuel Macron à l'époque et qui expliquait qu'il fallait accueillir les migrants avec bienveillance parce que c'était l'honneur de la France. Aujourd'hui, je pense qu'il a changé.
Il avait quand même dit dans sa campagne sur les demandeurs d'asile qui ne se voyaient pas reconnaître l'asile,
oui,
qu'il fallait
en tout cas, il avait
beaucoup
parlé...
plus efficace pour
mais
qu'il rentre chez
lui. Juste une chose.
Il avait prévu de réformer le droit d'asile et le droit de migration, ça il l'avait dit, mais il avait dit il faudra faire preuve de bienveillance et accueillir les migrants parce que c'est l'honneur de la France. Il avait plutôt salué les initiatives.
Les migrants, tous les migrants.
Il avait plutôt salué l'initiative d'Angela Merkel, alors qu'un autre comme Manuel Valls, par exemple, l'avait condamné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que la France prend sa part de tout ça? Vous dites la France n'a pas, c'est pas inscrit quelque part que la France doit accueillir les migrants.
C'est le deuxième pays européen pour l'accueil.
La France prend sa part et elle accueille bien et elle intègre.
Il y a 200 000 personnes qui viennent en France chaque année, ça c'est les chiffres de l'immigration. Il y a des demandes d'asile
versus
en
est combien,
elles sont pas toutes accordées.
On est combien de millions?
Elles sont pas toutes accordées.
Ça fait 1 million en 5 ans, ça fait une ville de 1 million en 5 ans.
Ça je vous donne le chiffre de l'immigration en général. Après il y a 2,5 millions de migrants qui sont arrivés en Europe. On peut dire on les voit pas, on s'en fiche. De demandeurs d'asile. L'Allemagne en a pris 1,2 million. La Suède en a pris 200 000.
Avec les conséquences que Stéphane
avec
a parfaitement...
Avec les conséquences, on peut se dire on ne voit pas ce problème, ces gens-là n'ont qu'à rentrer chez eux, ils n'ont qu'à prendre le bateau du retour.
Non, mais vous voyez, la montée de l'extrême droite en Europe.
Mais je vois la montée de l'extrême droite.
Est-ce que quelqu'un a dit ça?
Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait, Elisabeth? On les renvoie dans les zones de guerre? On les renvoie dans les zones de famine?
C'est trop de mauvaise foi et c'est trop agité.
Non, c'est mon opinion. Alors vous pouvez me dire, vous avez la vôtre, j'ai la mienne. C'est pas de la mauvaise foi. C'est pas des bons sentiments. Alors je vous garde à vos mauvais sentiments.
C'est trop agité les bons sentiments. Nous avons dit l'un et l'autre, en tous les cas, qu'il ne s'agissait certainement pas de renvoyer tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'on en fait?
Vous permettez que je vous réponde?
Je
pense qu'il est assez sage de renvoyer ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile, c'est-à-dire effectivement les Ivoiriens ou les Albanais qui veulent chercher du travail.
Et ça, on rentre donc dans les centres le soir, comme la circulaire Colomb le souhaite, pour les trier.
Je vais vous répondre.
Mais c'est la question.
Soit on dit qu'il y a une différence entre être en France légalement et ne pas l'être. Si on veut que des gens puissent avoir le droit d'être légalement en France, il faut qu'on puisse expulser. Je suis navré.
Pour les trier, vous les triez dans les centres.
Pour les expulser, il faut bien les recenser.
Mais oui, mais ça dépend où on les recense.
Alors, on expulse, on monte des barrières et on met les barbelés.
Dès qu'on parle de recensement, c'est le point Godwin partout. Donc à ce moment-là, faire une liste électorale, c'est vraiment ficher les gens.
Recenser, c'est où on les recense. Est-ce qu'on rentre dans le seul endroit où le soir ils peuvent avoir un petit peu de temps ou de quiétude? C'est ça la question.
C'est l'endroit où on les recense.
Bien sûr, c'est ça le problème de la circulaire.
Eh bien, moi, je pense qu'il faut les recenser là où on sait qu'ils sont. Où vous voulez les recenser? Mais enfin, vous voudriez qu'on traite un problème avec que des sentiments. Dès qu'on parle de autre chose,
avec des sentiments. Mais
vous voulez qu'on ne le traite qu'avec des sentiments.
Il
n'y
a pas non plus de si mauvais sentiments. Le nombre de personnes. Non, mais à chaque fois. Vous avez vu l'efficacité des mesures d'expulsion? Je crois qu'il y a combien?
96%
des gens qui ne sont pas. Enfin, on peut être sous coup d'une expulsion et les gens ne sont pas expulsés. Donc à un moment, c'est incroyable. Enfin, la loi existe en France. On est un État de droit, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on peut pas, quelqu'un qui est dans l'illégalité ne peut pas être protégé par la loi. C'est quelque chose qui, enfin, ou alors il y a pas de loi, quoi.
Olivier, pour conclure.
Ben moi, je suis atterré par la violence des arguments ou la véhémence du ton. Je veux dire, on a affaire à quelque chose quand même qui est extrêmement important. Il s'agit effectivement d'êtres humains. Et si voilà. Je suis loin de penser qu'il faut pratiquer une politique de la porte ouverte, grande ouverte, sans restriction, je suis loin de ça. Mais néanmoins, on peut peut-être aborder le sujet avec un petit peu d'humanité dans le ton, tout simplement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, effectivement, l'immigration est un problème qui est pratiquement impossible à traiter convenablement en ce moment, parce qu'il est lié à des tas de paramètres. Le non-développement de l'Afrique, est-ce qu'on fait le nécessaire, nous, de notre côté? Est-ce que les Européens, globalement, font le nécessaire pour qu'effectivement ces personnes qui peuvent avoir envie de travailler chez elles puissent trouver du boulot chez elles? Il y a aussi, effectivement, des régimes qui ne sont pas à la hauteur de la situation, dont nous n'avons pas à porter la responsabilité des erreurs permanentes. Je pourrais citer l'Algérie. Si l'Algérie connaît énormément de chômage aujourd'hui, ça n'est pas la faute de la France. Ça, c'est un problème extrêmement important. Et puis, si on veut aussi résoudre en partie cette question d'immigration, pour qu'on regarde ceux qui arrivent différemment, il faut aussi qu'on accepte qu'on parle de certaines choses, et notamment de l'extrémisme islamiste, qu'on puisse en parler très librement. Voilà. Sans Allez. Être accusé d'islamophobie à chaque fois.
Ah, j'allais le faire pourtant, dommage.
Autre sujet, dans un instant, on va débriefer le scandale d'État, Lactalis. Et toi, peut-être que j'exagère un petit peu.
Ah, c'est pas l'État qui en cause, en l'occurrence.
RTL Soir, jusqu'à 20h.
On refait le monde, avec Marc-Olivier Faugier.
Et à 19h39, avec Stéphane Blakowski, Olivier Mazerolle, Mathieu Croissando, Elisabeth Lévy, les contaminés, à qui la faute? L'État, les grandes surfaces, Lactalis. En tout cas, ils se rejettent tous la responsabilité. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL le président de l'association des familles des victimes qui venait de parler avec Bruno Le Maire, Quentin Guillemin, qui réclame la transparence. On n'est pas convaincu, on peut se poser la question de la responsabilité de l'État. J'attends des actes pour Emmanuel Macron. Oui, l'État français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire. Alors, est-on face à un scandale sanitaire ou pas sur les réseaux sociaux, Benoît?
Ah, énormément de colère, évidemment. Voilà où nous en sommes. Pour préserver leurs profits, certains sont prêts à empoisonner des nourrissons. Un scandale, rage Thomas.
Oui, faut pas
responsable, l'est pas coupable. Ça ne vous rappelle rien, Rick and Jean. Marie en veut surtout à Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, qui, du haut de ses milliards, nous donne à nouveau à voir sa méthode cynique de gestion de crise. Se planquer dans un bureau, fuir les médias. Une seule réponse au scandale du silence de Lactalis. Boycotter leurs produits, lance Claude comme beaucoup. Ah, bonne idée, mais vous avez aucune idée de l'ampleur de la gamme Lactalis et des noms de rempoint de leurs produits. Président Nesquik, le petit Salakis, Galbani, j'arrête là. La pieuvre est tentaculaire, dissimulatrice et discrète, explique Michel. Juan brocarde plutôt le système tout entier, ce mensonge comme un beau symbole d'une agriculture intensive qui oppresse les producteurs et empoisonne les consommateurs. Vic en veut surtout aux vendeurs. Malgré le rappel officiel, Leclerc a refourgué 984 produits et va mener tout seul son audit. Bien voyons, Madame la Ministre, faire confiance aux tricheurs, c'est ça la nouvelle règle en France? Jojo a beau évoquer le droit à l'erreur, l'IP s'énerve, le chantage à l'emploi de ces grandes sociétés a ses limites quand leur comportement est vénal et criminel. À un moment, ça suffit. Je crois surtout qu'ils se sentent tous de plus en plus intouchables. Ils risquent quoi, en fait? Des amendes dérisoires par rapport à leur fortune, se demande Tony. Enfin, à tous ceux qui trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires, vous ne pensez pas qu'il faudrait plus de contrôle physique, plus d'agents, conclut Lewis?
Alors, Olivier Mazerolle, la faute à qui, selon vous? Parce qu'on a bien compris que depuis ce matin, enfin, j'allais dire, l'État était à la manœuvre pour déminer. Tout à l'heure, vous entendiez le gars de l'association qui expliquait que ça faisait 2 mois qu'ils essayaient de les bouger et que personne ne répondait. On a l'impression que d'un coup, on prend la mesure du problème.
Oui, enfin, d'abord, la faute, elle est quand même chez Lactalis. On ne peut pas dire que ce soit une entreprise qui soit extrêmement ouverte à la transparence. Mmh. Elle est gouvernée de façon très opaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est elle qui a connu le problème et qui a continué à fournir. Bon, ça, c'est le premier point.
Ça, c'est sûr.
Le deuxième point, oui, c'est que la grande distribution, elle peut difficilement se réfugier derrière le fait que Lactalis a continué. Je crois qu'il y a un grand distributeur qui dit « Ah ben oui, mais c'est pas de notre faute, ils ont continué à nous fournir des lots contaminés. »
Et qu'ils ont assez mal informé sur les lots, apparemment.
Oui, enfin, chacun est quand même responsable de ce qu'il met dans les rayons.
La faute est quand même chez Lactalis.
Si un grand distributeur n'est pas capable de vérifier ce qui se passe, ça pose un vrai problème. Enfin, effectivement, on peut dire aussi que c'est vrai que c'est le gouvernement qui a pris les dispositions à l'époque, le 9 décembre, si je me souviens bien.
Bruno Le Maire, c'est ce que rappelle Bruno Le Maire ce matin.
A pris une décision. Mais est-ce que le gouvernement a fait suffisamment de publicité autour de cette décision? Ça, c'est la grande leçon quand même. C'est qu'il faut informer le public, mais très largement. On le fait lorsqu'un enfant est à juste titre. Il y a l'alerte enlèvement quand un enfant est enlevé. Et ça fonctionne. Dans la plupart des cas, on retrouve le gamin ou la gamine qui a été enlevée. Eh bien, là aussi, il faut certainement prévoir des dispositifs qui fassent que la population, que tout le monde, soit informé.
De façon beaucoup plus efficace. Hein. Vous, au-delà de Lactalis, Mathieu, vous pensez qu'il y en a plein comme ça, des produits que la sécurité sanitaire...
Non,
mais c'est la question qui se pose.
On est dans un malaise de l'époque.
Les gars des associations de consommateurs expliquent que celui-là, il est très marquant, mais qu'on n'a pas tellement tiré les leçons de l'histoire du cheval dans les lasagnes.
Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde se retourne.
C'est un accident. Le fait, c'est que derrière, ça puisse être dans des rayons sans que personne s'en rende compte.
Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde se retourne vers l'État. On est quand même là avec des acteurs privés. Il y a un fabricant de lait en poudre pour.
Non, mais vous avez entendu Benoît Hamon ce matin ici dire qu'on se retourne vers l'État parce qu'on retire des fonctionnaires à la DGCCRF et donc ils ne peuvent pas aller contrôler.
Oui, mais c'est juste. Il y a un truc qui s'appelle en France le principe de responsabilité et partout ailleurs aussi. Et on peut imaginer que Lactalis qui découvre des salmonelles dès août et puis dès l'automne, pas dans les chaînes de production, mais dans l'usine, se dise il faut y remédier. Elle ne le fait pas. Et puis on peut imaginer que Lactalis, une fois que le scandale arrive, disent que tous les lots sont contaminés et elle ne le fait pas. Donc voilà. Et puis après, il y a cette question délirante des grandes enseignes. On est quand même dans un moment où on réfléchit à l'intelligence artificielle, des trucs incroyables. Et là, il s'agit juste d'enlever des poux de rayon et on veut
par exemple,
c'est super compliqué.
Quand on prend l'exemple de Carrefour, quand on les interroge, ils disent qu'ils avaient 100 000 boîtes dans les rayons vendues ou expédiées, notamment par le e-commerce. Le temps de rapatrier le tout, finalement, il y en a 400 qui sont passés entre les gouttes. Et ils expliquent c'est hyper dur, c'est hyper dur de les récupérer parce qu'ils sont partis par le e-commerce.
C'est plus dur de récupérer les boîtes de lait en poudre dans le commerce que d'envoyer des hommes.
Je trouve ça l'inverse, je trouve que cette affaire-là, ça serait presque la preuve que finalement on est plutôt bien protégé. Je comprends que ce soit une affaire en or dans un climat où on adore désigner les puissants parce qu'on a l'impression qu'ils sont forcément responsables. Donc là, on peut se faire d'un seul coup, rendez-vous compte, l'État d'un coup, un grand groupe d'un coup et la grande distribution, les trois strikes. Alors forcément, comme c'est les puissants, alors là, on se déchaîne. Les journalistes ont l'impression enfin de faire leur métier. Donc d'un coup, ils se jettent là-dessus. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? 100 000 boîtes, il en reste quoi? Je crois que chez Intermarché, ils en ont chopé deux. Bon, moi, je peux comprendre.
Non, c'est des lots, hein. C'est pas de.
Chez Auchan, c'est des lots.
50 boîtes.
Chez Auchan, 50 boîtes.
Moi, je peux comprendre que quand il y a des milliers de magasins en France, on les retire pas tous d'un coup. Qu'il y a un peu de. Il y a eu quoi? Il y a combien de contaminés? J'entendais une mère dont l'enfant avait été contaminé qui disait je me battrais contre, je sais pas quoi, Leclerc, je crois, comme ma fille s'est battue contre la salmonellose. Elle avait trouvé son combat, cette femme. Enfin, tant mieux, sa fille n'a pas été gravement malade. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort. Je croise évidemment les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Mais je trouve que on n'est pas en Chine avec des centaines de morts avec du lait en poudre pourri. Donc je trouve qu'en France, on est plutôt bien protégé. Bon, peut-être que j'ai pas d'enfant non plus. Et donc du coup, je pense ça avec un peu de distance.
Pas d'enfant en bas âge.
Oui, c'est les enfants maintenant. Si on me disait, vous savez qu'il y a un problème avec le Red Bull, là, j'aurais un problème. Parce que, les enfants, maintenant, vous allez arrêter.
Elisabeth.
Non, mais là, je dois dire, je suis un peu. Il me coupe un peu l'herbe sous le pied.
Mais en fait, engagez-le à causeur.
Exactement.
Engagez-le à causeur.
On va pas être banni après comme Elisabeth.
Je suis assez d'accord avec ça, mais je voudrais juste ajouter un truc.
On peut pas allumer la télé sans l'avoir.
Il y a quand même je suis d'accord, mais j'ai quand même l'impression, moi, que là-dedans. C'est après, je parle sous votre contrôle, que suivant le même raisonnement des 50 boîtes qui restent, alors qu'il y en avait des milliers, des dizaines de milliers en circulation, je pense qu'on s'est jeté sur les grands distributeurs parce que c'est eux qu'on aime détester.
Il y a des trucs à leur reprocher, hein,
plus
je dis pas ça, mais là.
Plus que tout, j'ai quand même l'impression. Alors là où je suis un peu moins indulgente, c'est vrai que globalement, j'ai l'impression qu'on vit dans un système où il y a énormément de garde-fous sanitaires. L'État est quand même supposé être un peu le garant. Je veux dire, de la qualité sanitaire ou de la non-nocivité, de la non-dangerosité. Donc, et j'ai l'impression, comme Stéphane, qu'on est un peu protégé. En revanche, là où il y a quand même, on a quand même un petit envie de tomber sur quelques personnes, c'est si vraiment des gens continuent à vendre un produit en sachant qu'il est pourri, même si c'est pas beaucoup, là, il y a quand même. Et je pense que c'est. Est-ce que c'est pas pénal?
Et même,
c'est
de la conséquence. Mais vous touchez à deux trucs qui sont hyper symboliques, qui sont l'alimentation et les bébés. Donc, est-ce qu'on empoisonne les bébés, c'est pour ça qu'on fait tous dessus, je réponds à Stéphane, c'est le truc absolument...
Évidemment, les ados Red Bull, bon...
Et c'est pour ça que tout le monde s'en mêle. Mais il y a quand même, ça pose une vraie question. Moi, je ne suis pas certain, on ne peut pas faire le procès à la grande distribution d'avoir vendu sciemment des trucs pourris. Je pense
mais à Lactalis, oui.
Mais à l'incompétence.
Non, mais moi, je parlais de Lactalis.
L'État, pour le coup, il y a eu des contrôles. L'État, dès le 9 décembre, commence à lever le ton. On est quoi? On est le 11 janvier et il y a encore des pots. Moi, ça me sidère qu'en un mois, on n'arrive pas à retirer des choses de la vente.
Allez, dernier sujet dans un instant. Gallimard qui ne rééditera pas, en tout cas pour le moment, les pamphlets de Céline.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
Et à 19h49, on refait le monde ce soir avec Elisabeth Lévy, Mathieu Croissant-Deau, Olivier Mazerolle et Stéphane Lakowski. Gallimard, donc il n'y aura pas de réédition des pamphlets de Céline, enfin pas pour le moment. Donc Antoine Gallimard, patron de la célèbre maison d'édition du même nom, a annoncé qu'il stoppait tout au nom de ma liberté d'éditeur et de ma sensibilité à mon époque. Je suspends ce projet, jugeant que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l'envisager sereinement. Depuis plusieurs semaines, donc la polémique gonflait. On en avait débattu ici même avec Arnaud Clarfel, qui, comme son père, réclamait l'interdiction de ses textes. Alors, vous applaudissez cette suspension, vous la regrettez, Benoît?
C'est toujours aussi partagé. D'un côté, cuillère qui salue une bonne chose, c'est très mal écrit, ça n'apportait rien au débat, même l'intérêt historique n'est pas évident, et puisque qui les veut vraiment peut les avoir, je n'aimerais pas qu'un éditeur se sucre dessus. De l'autre, Ponty qui hésite, ne pas publier pour raisons idéologiques, j'ai toujours du mal. Alors maintenant, on censure la culture, c'est fini, je suis Charlie, demande Zépu. Oui, enfin, est-ce que ces pamphlets font vraiment partie de la culture? C'est loin d'être des chefs-d'œuvre, hein, si c'est pas. Céline était une fripouille, mais de là à considérer que les Français ne sont pas suffisamment adultes pour lire ses écrits, soupire Karf. Mes parents ont vu à Auschwitz que ça donnait l'intelligence humaine, permettait donc que nous soyons quelque peu méfiants, rétorque Marc. Mais enfin, c'est le nouveau totalitarisme, tout noir ou tout blanc, la mise à mort de la nuance. C'est aussi l'infantilisation des gens. On leur assène ce qu'ils doivent penser en leur niant toute intelligence, en leur refusant de se faire leur propre opinion. Rage Diane, où allons-nous? Dans la bonne direction, conclut Cerbère, loin de la haine et loin des racistes.
Alors pour vous, Elisabeth Lévy, cette décision tardive de Gallimard.
Je réagissais à tout noir ou tout blanc, parce qu'en l'occurrence, c'est rare qu'on soit en présence de tout noir ou tout blanc. Et là, on est dans les pamphlets, on est dans le tout noir. Je crois que ces pamphlets sont diaboliques au sens presque métaphysique du terme, mais je crois qu'ils font partie intimement de l'œuvre de Céline. Je ne crois pas qu'il y ait un bon Céline, et là je m'appuie sur un essai magnifique de Philippe Muret, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à la chose, qui s'appelle Pour Céline, et qui dit Céline, c'est un génie du mal, et il n'y a pas d'un côté le génie, le romancier génie, génial de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, et de l'autre, le méchant des pamphlets, c'est une seule œuvre. Et évidemment, dans un monde normal et dans un pays de liberté intellectuelle, il serait bon que l'on ait accès à ces pamphlets. Et pourtant, après, je suis très mal à l'aise, en fait, parce que moi, je suis pour la liberté. Mais je crois que dans les conditions actuelles, il y a deux arguments, à mon avis, qui font que Gallimard a eu raison de le suspendre. D'abord, parce que le projet était quand même très mal engagé par le type au nom italien, Terretanzi, ou le prof, qui a un nom.
Il y a une réédition au Canada qui a été. Il y a une édition critique. Donc,
et dont le titre était écrit polémique, et apparemment, l'appareil critique très faible, et disons, rappelant.
250 pages de critique sur 1300 pages
de texte. Et rappelant tout le temps qu'il fallait replacer les choses dans leur contexte, et que quand même, ça n'était. Bon, bref. La deuxième raison, c'est qu'on est quand même dans une période très singulière du point de vue de l'antisémitisme, et je disais la semaine dernière que je ne crois pas que qui que ce soit puisse devenir antisémite en lisant les pamphlets. D'abord, je pense qu'il y a une qualité littéraire quand même qui existe et qui peut peut-être, malgré tout, exercer une séduction, mais dans la période actuelle, ça vendrait, et franchement, je ne sais pas comment dire, ça n'est pas le moment, parce que je n'ai pas envie de voir les pamphlets, si vous voulez, devenir un best-seller dans les années à venir au nom de la connaissance.
Mais c'est une affaire de responsabilité.
Mais je trouve que Gallimard a eu raison.
C'est une affaire de responsabilité, et c'est même étonnant que Gallimard se soit lancé là-dedans. Est-ce qu'on est dans un moment où on a envie de redonner de la publicité, puisque c'est ça, publier, à ce qu'est un dégueulis antisémite? Et je le dis comme ça parce que pour les avoir regardés de près, littéraire. Mais c'est un dégueulis antisémite. On peut dire que c'est super bien écrit pour l'antisémitisme, mais c'est un dégueulis antisémite. Est-ce quel est l'intérêt de ça?
Bah, ils ont réédité Mein Kampf en Allemagne,
Mein Kampf,
c'est différent. C'est le livre programmatique d'un mec,
du nazisme,
et d'un personnage qui a fait...
Et d'un programme.
Mort, voilà, et d'un programme. Donc, je peux comprendre l'intérêt historique. Là, on est dans un pamphlet antisémite. À ce moment-là, à ce compte-là, on peut rééditer Gringoire, on peut rééditer Je suis partout, peut rééditer toutes
ces
choses-là.
C'est Céline.
Mais j'ai pas ce snobisme à me dire c'est Céline, c'est super bien écrit. Non, c'est une saloperie antisémite qui est écrite. Et on est dans un moment où on n'arrive plus à enseigner la Shoah dans certains établissements scolaires. On est dans un moment, ça s'est passé à Créteil cette semaine, où des boutiques se retrouvent avec des croix amalgamés parce que c'est des magasins cachers, voire brûlés parce que c'est des magasins cachers ou qui vendent des produits. Parce qu'on vend des produits aux juifs, voilà, on mérite d'être brûlés. Est-ce qu'il n'y a rien de plus urgent à faire que de republier ça au nom de la qualité littéraire, au nom de l'intérêt historique? L'intérêt historique, on le sait que Céline a été antisémite. Moi, je trouve que c'est donner une forme de publicité à ces écrits-là et on en aura bien l'air malin demain quand des gens diront ah ben, moi, je ne fais que lire le texte de Céline, ils feront des.
Ouais, mais c'est je pense, et quand Dieu donné le lira dans ses spectacles.
Lira Céline, c'est pas moi.
C'est plus chez lui.
Non, mais
quand il dira c'est pas moi, c'est Céline, et j'ai le droit de le dire. En revanche, quand je fais mes sketchs, j'ai pas le droit de le dire. À quoi ça sert? Est-ce qu'on a besoin de ça? Quel est l'intérêt?
C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, Céline lui-même avait exercé ce qu'on appelle un droit de retrait en refusant la publication après-guerre, évidemment, puisque le climat avait changé.
Oui, il tenait pas trop à se faire repérer avec ça.
Donc, non, justement, pour essayer de restaurer son image et d'en être à cet écrivain extraordinaire qu'il est, mais en gommant ses écrits dont il avait honte, qui voulait ternir son image. Donc finalement, le fait
qu'il avait honte.
Bah honte, ou peut-être pas honte.
Il voulait pas tactiquement.
C'est ce que je voulais dire. Vous êtes un meilleur connaisseur de Céline que moi, mais je suis pas certain qu'il ait changé la vie.
Ce que je veux dire, c'est que
le fait de remontrer ces textes, de montrer à quel point Céline était quelqu'un de profondément antisémite, mais dès les années 30, puisque c'est sorti en 1937.
Après,
parce que vous pensez que les gens vont lire l'appareil critique, ils vont lire la préface et la postface, les gens vont prendre le texte brut au premier degré et vont s'en régaler.
Mais bien sûr, de certaines personnes.
De certaines personnes, mais on fera pas la différence.
Ils sont déjà antisémites.
D'abord,
c'est moi, ce que je pense. Alors, je
crois que la décision prise aujourd'hui est une mauvaise décision. Je peux dire pourquoi.
Bien sûr.
Je crois que c'est une mauvaise décision parce qu'elle contredit la première décision pour. Et effectivement, on peut se demander pourquoi Gallimard avait l'intention de publier ses écrits qui sont. À l'heure actuelle, disponible sur Internet pour qui veut les lire.
Sur des sites négationnistes.
Et dont finalement, personne ne parlait. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, le mal est fait. Dans le climat dans lequel nous nous trouvons, de complotisme généralisé, tout le monde est suspect de vouloir cacher la vérité.
8 Français sur 10 croient au moins à une thèse complotiste.
Alors, Gallimard, finalement, sous la pression des nantis, de ceux qui savent, etc.
Des nantis.
Vont finalement. Non, non, mais. Je ne suis pas.
Mais Gallimard a déjà publié dans le Pays à sa correspondance.
Je le disais avec des guillemets, Mathieu.
Ces écrits, franchement, moi, je suis retourné les lire là, aujourd'hui sur Internet, mais ça donne envie de dégueuler. Mm-hmm. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est même pas de la haute littérature pour moi.
Mais ce que vous dites quand même, Olivier, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris la décision de le faire, il fallait aller jusqu'au bout.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la décision de ne pas publier va être comprise comme étant une infâme, par ceux qui le veulent en tout cas, comme étant une pression invraisemblable contre l'expression de la liberté, de
juste
la vérité,
juste une chose,
etc.
Pas de censure, pas d'interdiction, non, non. C'est pas ce qu'on dit. Que Gallimard, dans son esprit de responsabilité, dise « j'ai pas envie de faire ça ».
Je ne dis pas que Gallimard...
Jusqu'à présent, celui qui interdisait, c'était les ayants droit eux-mêmes.
La première erreur, c'est d'avoir eu l'intention de publier des écrits dont personne ne se préoccupait et qui, finalement, ne présentent pas d'intérêt particulier, en tout cas,
ça prouve un intérêt, c'est que c'est vraiment des manifestes antisémites et que ça prouve que Céline était un auteur qui était profondément engagé dans l'antisémitisme.
Est-ce que tout ça a été discuté auparavant? Ça n'était pas discuté.
C'est le grand débat. À chaque fois, on nous dit « Ah, Céline, est-ce qu'on a le droit de dire Céline ?»
Mais ça n'était pas discuté.
L'antisémitisme de Céline est connu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une place très singulière dans l'antisémitisme français. Je vous rappelle que beaucoup d'antisémites français ont sauvé des juifs. Céline, lui, est nazi après le génocide. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose, moi, dans lequel j'aimerais aussi peut-être puiser un élément de compréhension. Et je pense que l'appareil critique aurait pu m'aider, mais quand même, je me range à l'idée que
Il y a actuellement...
Allez, je reviens au tout début de l'émission. Des Français antisémites ont sauvé des Juifs parce qu'ils se sont trouvés devant des êtres humains. Oui. C'est la même chose pour les immigrés.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, le flash de 20h. Le flash de 20h dans un instant avec Céline Landreau. Et ensuite, c'est Jacques Pradel. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire ce soir.
Eh bien ce soir, je vous emmène dans le monde du crime au temps de Napoléon avec mon invité Jean Tullard, connu dans le monde entier comme l'un des meilleurs spécialistes de l'époque napoléonienne. Et avec lui, on va vous raconter dans un instant les grands faits divers qui ont bouleversé la France en ce début du 19e siècle. Et on va revenir aussi sur l'incroyable baraka du personnage qui a échappé à un nombre impressionnant d'attentats tout au long de sa vie.
À tout de suite, Jacques.
Vous écoutez RTL.